2. Vers 19h, le conducteur de l'aérien, un petit Anglais roux, passa la tête dans l'entrée du compartiment, réveillant Percy d'un lourd sommeil épuisé. « Le dîner va être servi dans un instant, messieurs, » dit-il en langue espéranto. « Nous ne nous arrêterons pas à Turin cette nuit. » Il referma la porte et alla répéter le même avis dans les compartiments voisins. Percy se réjouit d'apprendre que le vaisseau, prévenu probablement par un message sans fil, ne s'arrêterait pas à Turin. Cela lui donnerait plus de temps à Londres et pourrait même, peut-être, permettre au cardinal Steinmann d'arriver à Berlin quelques heures plus tôt. Il se leva, s'étira vivement, puis se rendit au cabinet de toilette pour se laver les mains. Et pendant qu'il se tenait là, devant le grand bassin à l'arrière du vaisseau, il fut fasciné du spectacle qui se découvrit à lui par la fenêtre, car c'était le moment où l'on passait au-dessus de Turin. Un bloc de lumière, vivant et superbe, brillait à ses pieds parmi l'abîme des ténèbres, et Percy songea à l'importance du rôle que jouait cette tache lumineuse dans la vie du monde. C'était de là qu'était gouvernée toute l'Italie, dans une de ces maisons qui lui apparaissaient comme de minuscules étincelles, des hommes siégeaient en conseil, qui disposaient de la destinée des corps et des âmes, et poursuivaient passionnément leur lutte contre Dieu. Et Dieu permettait tout cela sans faire aucun signe. C'était là que Felsenburgh s'était montré la dernière fois qu'il était sorti de sa retraite. Felsenburgh, cet homme qui lui ressemblait d'une façon si mystérieuse. Et de nouveau, il sentit son cœur traversé comme d'un coup de poignard. Quelques minutes après, les quatre prêtres étaient assis autour d'une petite table ronde dans un compartiment de la salle à manger au plus profond du vaisseau. Le dîner était excellent, mais les convives ne se trouvaient guère en humeur de l'apprécier. Ils restaient assis en silence, car les deux cardinaux ne pouvaient s'entretenir que d'un sujet unique et leur chapelain n'avait pas encore été mis dans le secret. L'air devenait très froid et les courants de vapeur chaude ne suffisaient point à vaincre la température glaciale qui commençait à se répandre au-dessus des Alpes. L'aérien était forcé de monter à près d'un kilomètre de son niveau habituel afin de franchir la barrière du mont Cenis. Et, en même temps, il était forcé de ralentir sa marche à cause de l'extrême rareté de l'air. Le cardinal allemand se leva sans attendre la fin du dîner. « Je vais rentrer dans notre compartiment, » dit-il. « Je serai plus à l'aise là-bas, sous mes fourrures. » Son chapelain le suivit docilement, laissant son propre dîner inachevé. Et Percy resta seul avec le père Cochrane, son chapelain anglais récemment arrivé d'Écosse. Il but son vin, mangea une coupe de figues, puis se retourna vers la grande fenêtre vitrée derrière lui pour regarder les Alpes. Plusieurs fois déjà, il les avait traversées ainsi, et il se rappelait l'effet merveilleux que toujours elles lui avaient produit, mais particulièrement un jour où il les avait vues vers midi, par un temps très clair. Un éternel et incommensurable océan de blancheur, semé de petites rides, qui, d'en dessous, étaient des pics fameux et redoutés. Et, plus loin, la courbe sphérique de l'horizon, où terre et ciel se mélangeaient, sans qu'il fût possible de les distinguer. Il les contemplait à présent, ces Alpes magnifiques, avec un grand effort d'attention, résolu à se distraire de l'angoissante pensée qui s'imposait à lui, lorsque tout à coup, le vaisseau poussa un grand cri, auquel répondirent de tout près plusieurs autres cris semblables. Après quoi il y eut un tintement de cloches, un chœur d'appel harmonieux s'éleva, et l'air fut tout rempli de battements d'ailes. Brusquement, comme une pierre, la voiture fut précipitée en bas, et Percy dut se tenir à l'appui de la fenêtre pour calmer son affreuse sensation de chute dans le vide. Enfin, la chute s'arrêta, et l'aérien put reprendre sa marche en ligne droite. Au dehors, mais bien haut dans l'air, les appels continuaient. La nuit en était tout imprégnée. Et Percy, levant les yeux, reconnut que ce n'étaient point 3 ou 4 vaisseaux aériens, mais au moins une vingtaine qui étaient en train de voler dans la direction du sud. À l'intérieur, la voiture portait des traces nombreuses du choc soudain qu'elle avait subi. Les portes des cabinets du restaurant étaient grandes ouvertes. Des verres, des assiettes, des mares de vin s'étalaient çà et là sur le plancher. Dans le corridor, où Percy se hâta de passer avec son chapelain, un mélange confus de paroles et de cris rendait toute question impossible. Les deux prêtres parvinrent, non sans peine, à traverser la foule des passagers jusqu'au compartiment où les attendait le cardinal Steinmann. Celui-ci ne semblait pas avoir souffert de la secousse. Il expliqua qu'il s'était endormi et avait pu se réveiller à temps pour éviter d'être jeté à terre. « Mais qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Le père Béchelin, son chapelain, affirma qu'il avait parfaitement vu l'un des nombreux groupes des aériens, à une distance d'à peine 10 ou 15 mètres. Les vaisseaux, disait-il, étaient bondés de têtes d'un bout à l'autre. Puis il avait eu l'impression qu'ils s'élevaient brusquement et disparaissaient dans des tourbillons de brume. « On est en train de s'informer, » dit le père Cochrane, qui s'était attardé dans le corridor. Le conducteur a mis en mouvement l'appareil du télégraphe. Percy n'avait aucune idée de la signification d'un événement aussi imprévu, mais il ne pouvait s'empêcher d'en éprouver un pressentiment pénible. Cette rencontre d'une centaine d'aériens était chose inouïe. Le cardinal se demandait où il pouvait aller ainsi, vers le sud. De nouveau le nom de Felsenburgh lui traversa l'esprit. Était-ce encore quelque manifestation de cet homme inquiétant ? Bientôt, les bruits de voix recommencèrent dans le corridor, des voix précipitées, interrogeant, s'écriant, étouffant les sèches réponses du conducteur. Percy se leva de son coin et résolut d'aller aux renseignements. Mais, au même instant, la porte fut ouverte du dehors. Le conducteur entra, la mine grave et véritablement effrayée, et referma la porte derrière lui. « Eh bien ? » lui cria Percy. « Messieurs, je crois que vous feriez mieux de descendre à Paris. Je sais que vous êtes des prêtres, messieurs, et bien que je ne sois pas catholique... » Il s'arrêta de nouveau. « Pour l'amour du ciel, parlez !» reprit Percy. « Mauvaise nouvelle pour vous, messieurs. 50 aériens se rendent à Rome. Il y a eu un complot catholique, messieurs, découvert à Londres. Eh bien ? Oui, pour faire sauter l'abbaye. Et alors, on va maintenant ? Eh bien ? Oui, messieurs, on va maintenant faire sauter Rome. » Et le conducteur sortit précipitamment. Chapitre 7. 1. Ce même jour, le dernier de l'année, vers 16 heures, Mabel entra dans la petite église voisine de sa maison. La lumière tombait doucement. Le coucher de soleil hivernal scintillait à l'ouest de l'église, et tout l'intérieur était rempli d'une faible lueur expirante. La jeune femme avait un peu sommeillé dans son fauteuil l'après-midi et s'était réveillée avec cette étrange clarté d'esprit qui succède parfois à de tels sommeils. Plus tard, elle s'étonna d'avoir pu dormir aussi tranquillement, sans rien remarquer du grand nuage de crainte et de fureur qui, déjà, était en train de s'abattre sur la ville. Et ce n'est que plus tard, aussi, qu'elle se rappela une agitation extraordinaire dans la rue, quand elle était sortie, de singuliers appels de cor et de sifflets. Mais sur le moment, elle n'y avait fait aucune attention, et était bien vite entrée dans l'église pour méditer, suivant son habitude. Car de plus en plus elle s'était accoutumée à aimer le calme de ce lieu et à y venir souvent pour raffermir ses pensées, pour les concentrer sur la signification cachée sous la surface de la vie. Au reste, ce genre de dévotion était en train de devenir assez commun parmi toutes les classes du peuple. De temps à autre, de véritables sermons étaient prononcés. Deux petits livres apparaissaient, destinés à servir de guide pour la vie intérieure et ressemblant tout à fait aux vieux livres catholiques d'oraison mentale. Ce jour-là, Mabel s'assit à sa place ordinaire, joignit les mains, considéra d'abord une minute ou deux l'antique sanctuaire de pierre, l'image blanche et la fenêtre rapidement assombrie. Puis elle ferma les yeux et se mit à méditer, à prier, d'après une méthode qui lui était devenue familière. En premier lieu, elle concentra son attention sur elle-même, se détachant de tout ce qui était purement extérieur, transitoire, se refoulant toujours plus au-dedans, jusqu'à ce qu'elle eût atteint cette étincelle secrète qui, sous toutes les fragilités individuelles, faisait d'elle un membre effectif de la race divine de l'humanité. Le second degré de sa prière consistait en un acte de pensée. Elle songeait que tous les hommes possédaient cette étincelle. Puis, réunissant toutes les forces de son imagination, elle tâchait à voir les innombrables millions de l'humanité. Les enfants naissant au monde, les vieillards qui en sortaient, les hommes mûrs qui se réjouissaient de pouvoir y vivre. Loin, à travers les siècles, son regard s'étendait, loin à travers ces âges de crimes et d'aveuglement, pendant lesquels la race s'était lentement élevée de la sauvagerie et de la superstition jusqu'à une pleine conscience de soi. Ou bien elle considérait les temps encore à venir, se dirigeant vers un point de perfection qui lui était impossible de comprendre tout à fait, faute d'y être elle-même arrivée. Et cependant, se disait-elle, cette perfection a déjà commencé. Les douleurs de l'enfantement sont passées, et déjà est venu celui qui doit être l'héritier des temps. Enfin, par un troisième acte de foi, elle se représenta l'humanité entière, le feu central, dont chaque étincelle n'était qu'un rayonnement. Cet être divin immense, impassible, qui s'était réalisé à travers les siècles, et que les hommes avaient appelé jadis Dieu, sans le connaître, mais que maintenant ils avaient reconnu comme la réunion transcendante de tous. Et, à ce point de sa prière, elle s'arrêta, contemplant la vision de son âme élevée au-dessus de son individualité personnelle, et buvant, lui semblait-il, à longues gorgées, l'éternel esprit de vie et d'amour. Un bruit plus fort, sans doute, vint la troubler et lui fit rouvrir les yeux. Elle aperçut, devant elle, les dalles encore vaguement éclairées, les marches du sanctuaire et la grande figure blanche de la maternité, qu'une rangée de cierges illuminait parmi l'obscurité environnante. C'était ici qu'autrefois les hommes avaient adoré Jésus, cet homme des douleurs ensanglantées, qui, de son propre aveu, n'avait pas apporté la paix, mais un glaive. Ici, ils s'étaient agenouillés, les aveugles chrétiens désespérés. De nouveau, le bruit s'éleva au dehors, frappant sa paix comme d'un coup de poing, sans qu'elle en comprît encore le motif. Elle se releva, son cœur battant un peu plus vite. Une fois seulement, elle avait entendu un bruit analogue dans un square où des hommes se pressaient autour d'un aérien tombé. D'un pas rapide, elle s'avança vers la porte du transept et sortit dans la rue. Celle-ci semblait extraordinairement vide et sombre. À droite et à gauche se dressaient les maisons. Au-dessus d'elles, le ciel, presque noir, était faiblement teinté de raies roses. Mais il semblait qu'on eût oublié d'éclairer les trottoirs, et pas une seule créature vivante en vue. Mabel se préparait à poursuivre son chemin lorsqu'un bruit de pas précipité l'arrêta, et tout de suite un enfant parut, une petite fille accourant, essoufflée et terrifiée. « Les voilà qui arrivent, les voilà !» sanglotait l'enfant en s'élançant vers la jeune femme. Puis elle saisit sa robe et se serra contre elle. « Qui donc ?» demanda Mabel. « Qu'est-ce qui arrive ?» Mais l'enfant cacha son visage dans les jupes qui l'abritaient. Et, dès l'instant suivant, s'entendit un fracas de voix et de pas sonores. En tête du cortège venait un escadron volant d'enfants, à la fois rieurs et épouvantés, poussant des cris inarticulés, et sans cesse retournant la tête, avec quelques chiens aboyant au milieu d'eux. Puis des femmes accouraient sur les deux trottoirs. Mabel aurait voulu interroger, mais elle ne le pouvait pas. Ses lèvres remuaient, mais aucun son n'en sortait. Une immense frayeur s'était emparée d'elle. Le cortège à présent s'était épaissi. Une troupe de jeunes gens s'avançait, tous parlant et criant très haut. Et, derrière eux, une foule confuse, pareille à une énorme vague dans un chenal de pierre. Des hommes et des femmes se distinguant à peine les uns des autres dans cet entassement de visages. La rue, tout à l'heure vide, était maintenant encombrée, au plus loin que ma belle pouvait voir. Sans cesse le courant de tête coulait, se précipitait. Et, pendant tout ce temps, la petite fille se cachait convulsivement dans les robes de ma belle. Et bientôt, par-dessus les têtes de la foule, certaines choses commencèrent à apparaître, des objets que la jeune femme ne pouvait pas distinguer dans l'obscurité, des bâtons, des formes fantastiques, des fragments d'étoffe ressemblant à des bannières. Des visages tordus de passion la considéraient de temps à autre au passage. Des bouches ouvertes lui lançaient des cris, mais elle ne les voyait ni ne les entendait. Elle n'avait d'attention que pour ces étranges emblèmes, tendant les yeux dans les ténèbres, tâchant à distinguer les formes confuses et devinant à demi, mais craignant de deviner. Tout à coup, des lampes cachées dans les murs des maisons, la lumière jaillit, cette forte et douce lumière engendrée par la grande machine souterraine, et que, jusqu'alors, dans la passion de ce jour, tout le monde avait oublié. En un clin d'œil, tout se changea, d'une troupe de fantômes et de formes vagues, en une impitoyable réalité de vie et de mort. Devant ma belle passait un grand brancard supportant une figure humaine, dont un bras pendait, avec les mains traversées comme de clous. Puis venait le corps nu d'un enfant, empalé sur une pique de fer, la tête tombant sur la poitrine, les bras dansant à chaque pas des porteurs. Et puis, c'était la figure d'un prêtre, encore vêtu d'une soutane noire avec une aube blanche. Et sa tête, sous une calotte noire, s'agitait, sautait avec la corde qui la soutenait. 2. Ce soir-là, Olivier rentra chez lui une heure avant minuit. Ce qu'il avait vu et entendu dans la journée était encore trop vivace et trop proche pour qu'il pût le juger avec sang-froid. De ses fenêtres de Whitehall, il avait assisté à l'envahissement du square du Parlement, par une foule comme jamais, à coup sûr, il n'y en avait eu de pareille en Angleterre, depuis les origines du christianisme. Une foule animée d'une fureur véritablement surnaturelle, et prenant sa source au-delà de la vie mentale ordinaire. Trois fois, durant les heures qui avaient suivi la divulgation du complot catholique, Olivier avait demandé au Premier ministre s'il ne convenait point de faire quelque chose pour calmer le tumulte. Et trois fois, la réponse, toujours aussi ambiguë, avait été que la police faisait tout ce qui était possible, mais qu'on ne pouvait songer à user de la force en un tel moment. Pour ce qui était de l'expédition des aériens vers Rome, Olivier y avait donné son adhésion en silence, comme tout le reste du conseil. Snowford seul avait pris la parole. Il avait dit que c'était un acte de châtiment judiciaire regrettable mais inévitable. Dans les circonstances présentes, la paix ne pouvait être assurée que par l'emploi de procédés de guerre, ou plutôt, toute guerre ayant désormais disparu, par des procédés de rigoureuse justice expéditive. Les catholiques s'étaient montrés les ennemis déclarés de la société, celle-ci avait le devoir de se défendre et de garantir à tout prix la sainteté de l'existence humaine. Olivier avait écouté tout cela sans rien dire. La nuit, en courant au-dessus de Londres, dans un des aériens du ministère, il avait aperçu maint détail de ce qui s'accomplissait au-dessous de lui. Les rues étaient aussi brillantes qu'en plein jour, claires et sans ombre dans la lumière blanche. Et chaque rue s'agitait convulsivement comme un serpent. Dans l'air s'élevait un rugissement continu de voix ponctué de cris. Çà et là, Olivier voyait s'élever de fumées d'incendie. Et comme il passait au-dessus de l'un des grands squares du sud de Battersea, il avait distingué quelque chose comme un millier de fourmis dispersées, s'enfuyant de tous côtés. Ce que tout cela signifiait, il n'avait pas eu de peine à le comprendre. Et, plus que jamais, il avait déploré que l'homme fût encore bien loin d'être pleinement civilisé. Il tâchait à détourner sa pensée de la scène qui l'attendait chez lui. Quelques heures auparavant, sa femme lui avait parlé au téléphone, et ce qu'elle lui avait dit avait brusquement donné le désir de tout abandonner pour aller la rejoindre. Et cependant, ce qu'il trouva en rentrant chez lui dépassa encore tout ce qu'il avait craint. Dans le petit salon, quand il y pénétra, aucun bruit ne s'élevait, sauf le bourdonnement lointain des rues alentour. La chambre semblait étrangement sombre et froide. L'unique lumière qui y arriva venait de l'une des fenêtres dont un rideau avait été tiré. Et là, se profilant contre le ciel clair, une femme était debout, immobile, paraissant écouter. Il pressa le bouton de la lumière électrique et Mabel se retourna lentement vers lui. Elle était vêtue de sa robe de ville, un manteau jeté sur les épaules. Son visage était presque celui d'une étrangère, absolument décolorée, avec les lèvres serrées et les yeux remplis d'une émotion indéfinissable, colère ou terreur ou angoisse, ou peut-être tout cela à la fois. Ainsi elle se tenait, dans la lumière de la fenêtre, immobile, le regardant. Pendant une minute, Olivier n'osa point parler. Il se dirigea vers la fenêtre, la referma et ramena les rideaux. Puis, doucement, il prit par un bras la forme raidie. « Ma belle, dit-il, ma belle !» Elle se laissa entraîner vers le sofa, mais sans répondre à son contact. Il s'assit près d'elle et la considéra avec une sorte d'appréhension désespérée. « Ma chérie, dit-il, je suis anéantie. » Elle continuait à le regarder. Il y avait dans sa pose cette rigidité que simulent les acteurs. Mais il savait trop que, chez cette femme, il ne s'agissait pas de simulation. Une ou deux fois déjà, précédemment, il avait observé chez elle une expression analogue, sous l'effet d'une horreur intense. Une fois en particulier, il avait eu cette expression en découvrant une tache de sang sur son soulier. Parmi le silence de la chambre, de nouveau, il entendit le grondement étouffé de la foule invisible qui faisait tumulte dans les rues voisines. Il savait que deux sentiments luttaient dans le cœur de la jeune femme. Sa fidélité à sa foi humanitaire et sa haine de ces crimes commis au nom de la justice. Mais maintenant, en la dévisageant, il voyait que ces deux éléments opposés se livraient un combat mortel, que toute l'âme de Mabel n'était qu'un champ de bataille, et que, décidément, c'était la haine qui l'emportait. Tout à coup, comme un hurlement de loup, la voix de la foule s'éleva puis retomba, et la tension intérieure de la jeune femme se brisa subitement. Elle s'élança vers Olivier qui la saisit par les poignets, et ainsi elle resta, serrée dans ses bras, le visage appuyé contre sa poitrine, et tout le corps soulevé de profonds sanglots. Longtemps encore elle se tut. Olivier comprenait tout, mais ne parvenait pas à trouver des paroles. Il l'attira seulement un peu plus près, baisa plusieurs fois ses cheveux, et essaya de préparer ce qu'il voulait lui dire. Mais elle, après un moment, releva vers lui son visage enflammé, le fixa avec un mélange de tendresse et de souffrance, et, ayant laissé retomber sa tête contre sa poitrine, commença de murmurer des paroles entrecoupées. Il pouvait à peine saisir quelques mots, çà et là, mais il savait trop bien tout ce qu'elle disait. Elle disait que c'était la ruine de tous ses espoirs et la fin de toutes ses croyances. Qu'on lui permit de mourir et d'oublier enfin toute chose. Espoir et croyance, tout avait été balayé par cet éclat meurtrier d'un peuple qui partageait sa foi. Ces gens-là n'étaient pas meilleurs que les chrétiens. Ils dépassaient même en cruauté les hommes dont ils se vengeaient. Les ténèbres régnaient en eux, aussi noires que si les sauveurs du monde Felsenburgh ne fût pas venu. Tout était perdu. La guerre et la passion et le meurtre étaient entrés dans le corps d'où elle les avait cru chassés à jamais. Les églises incendiées, les catholiques traqués, les corps de l'enfant et du prêtre portés par les rues, la destruction des églises et des couvents, un flot de plaintes s'écoulait d'elle, incohérent, interrompu par des sanglots, des images d'horreur, des reproches. Et sans relâche, elle tordait ses mains sur les genoux d'Olivier. Il la souleva et l'écarta un peu de lui. Tout épuisé qu'il fût par les fatigues de la journée, il sentait qu'il avait le devoir de la calmer. Jamais encore une crise aussi grave ne s'était produite chez elle. Mais il connaissait aussi le merveilleux ressort qui, chaque fois, finissait par la remettre sur pied. « Reste assise en face de moi, ma chérie, » lui dit-il. « Là, donne-moi ta main. Et maintenant, écoute-moi. » Il lui débita le plaidoyer, vraiment très habile et très éloquent, que d'ailleurs il s'était adressé à lui-même durant toute la journée. Les hommes, disait-il, étaient loin encore d'être parfaits. Dans leurs veines coulait le sang de 60 générations de chrétiens. Mais on devait se garder de désespérer. La foi dans l'homme était l'essence de la religion. La foi dans les éléments les meilleurs de l'homme, dans ce que celui-ci était destiné à devenir, non pas dans ce qu'il était à présent. On se trouvait au début de la religion nouvelle, et non pas encore à sa maturité, et il était naturel qu'on découvrît de l'aigreur dans le jeune fruit. Et puis, il fallait songer aussi à la provocation. Il fallait se rappeler le crime monstrueux que ces catholiques avaient projeté, la façon dont ils avaient résolu de frapper au cœur la foi nouvelle. « Ma chérie, disait-il, un homme ne change pas en un instant. Et puis, pense un peu à ce qui serait arrivé si ces chrétiens avaient réussi. Je t'assure que je condamne tout cela aussi sévèrement que toi. J'ai vu ce soir deux ou trois journaux qui sont aussi méchants et ignobles que tout ce que les chrétiens ont jamais pu faire. Ces journaux exultent à l'idée des horreurs commises, sans se douter que cela risque de faire reculer le mouvement, de nous ramener de 20 ans en arrière. T'imagines-tu donc que tu sois seul de ton avis et qu'il n'y ait pas des milliers d'autres cœurs qui haïssent et détestent ces violences? Mais à quoi bon avoir la foi si ce n'est point pour être assuré que la bonté prévaudra? La foi, la patience, l'espoir, voilà les armes par lesquelles nous vaincrons. » Il parlait avec une conviction passionnée, les yeux fixés sur elle, tout concentré dans l'effort de lui communiquer sa propre pensée, comme aussi d'effacer les vestiges des derniers doutes qu'il sentait en soi-même. Et en effet, peu à peu, l'expression d'horreur frénétique qui emplissait les yeux de la jeune femme disparut, pour y être remplacée simplement par celle d'une vive souffrance, à mesure que la personnalité d'Olivier recommençait à dominer la sienne. Cependant, la crise n'était pas encore finie. « Mais cette expédition vers Rome, s'écria-t-elle, cette flotte d'aériens, cela s'est délibéré et fait de sang-froid, ce n'est point l'éclat sauvage de la foule. » « Ma chérie, cela n'est pas plus délibéré ni fait de sang-froid que le reste. Nous sommes tous humains, nous manquons tous de la maturité que nous devrions avoir. C'est vrai que le Conseil a autorisé l'expédition, mais il n'a fait que l'autoriser, rappelle-toi cela. » Mais ma belle l'interrompit pour répéter une de ses paroles. « Autorisé, reprit-elle, et toi aussi, Olivier, tu as autorisé cette chose abominable ?» « Ma chérie, je n'ai rien dit ni pour ni contre, et je te jure que si nous avions voulu empêcher le projet, il y aurait eu encore plus de sang versé, et que la nation aurait perdu les seuls hommes qui tâchent à la guider. Nous sommes restés passifs, faute de pouvoir rien faire. Ah, mais il aurait mieux fallu mourir. Olivier, laisse-moi mourir au moins. Je ne puis point supporter tout cela. » Par ses mains, qu'il tenait encore dans les siennes, son mari l'attira plus près de lui. « Mon amour, lui dit-il gravement, ne peux-tu pas avoir un peu de confiance en moi ? Si je te disais ce qui s'est passé aujourd'hui, certainement tu comprendrais tout. Mais fais-moi confiance, crois bien que je ne suis pas sans cœur. Et puis pense aussi à Julien Felsenburgh. » Pendant un moment, il vit des traces d'hésitation dans ses yeux. Un conflit se livrait en elle, entre sa confiance en lui et son horreur de tout ce qui était arrivé. Puis, une fois de plus, sa confiance en lui prévalut. Le nom de Felsenburgh acheva de faire pencher la balance, et elle s'apaisa, en versant un flot de larmes. « Oh, Olivier, dit-elle, je le sais que je me puis me fier à toi, mais je suis si faible et tout est si terrible. Et lui, Felsenburgh, c'est vrai qu'il est si fort et si bon. Demain, n'est-ce pas, Olivier, il sera avec nous. » Les deux jeunes gens étaient encore assis et causaient, lorsque les horloges de la ville sonnèrent minuit. Mabel, toute frémissante de la lutte, releva les yeux sur son mari, avec un tendre sourire, et il put voir que la réaction espérée s'était enfin pleinement produite. « La nouvelle année, mon cher mari, dit-elle en se pressant contre lui, je te souhaite une heureuse nouvelle année. Oh, mon chéri, secours-moi. » Elle le couvrit de baisers, puis se recula un peu, les mains toujours dans les siennes, le considérant avec deux grands yeux brillants pleins de larmes. « Olivier, reprit-elle, il faut que je te fasse un aveu. Sais-tu ce que j'étais en train de me dire lorsque tu es arrivé ?» Il répondit non d'un signe de tête en la dévorant du regard. Comme elle était charmante et comme il l'aimait. « Eh bien, murmura-t-elle, je me disais qu'il m'était impossible de supporter tout cela. Olivier, tu comprends ce que je veux dire ?» Le cœur d'Olivier s'arrêta de battre à ces mots, et d'un mouvement éperdu, il la ramena tout près de lui. « Mais à présent, cela est passé, tout à fait passé, s'écria-t-elle. « Olivier, je t'en supplie, ne me regarde pas avec cet air épouvanté. Si ce n'était pas entièrement passé, je n'aurais pas trouvé le courage de t'en parler. » De nouveau, leurs lèvres se rencontrèrent, et un long baiser leur fit oublier le reste du monde. Mais soudain, dans la chambre voisine, la vibration du timbre électrique les réveilla de leur extase. Et Olivier, comprenant ce que signifiait cet appel du téléphone, sentit, même en ce moment bien heureux, qu'un tremblement d'angoisse et de crainte lui secouait le cœur. « Cet appel, » dit la jeune femme avec une nuance d'appréhension. « Mais nous sommes d'accord, n'est-ce pas, et tout est bien entre nous, » demanda-t-il. Le visage de Mabel n'exprima que tendresse et confiance. « Oui, mon chéri, tout est bien. » Et comme la sonnerie impatiente devenait plus aiguë, « Va, Olivier, » ajouta-t-elle, « je t'attends ici. » Une minute après, il était de retour, les lèvres serrées, avec une expression singulière sur son visage blême. Il vint tout droit vers sa femme, lui prit de nouveau les mains et la fixa dans les yeux sans rien dire. Dans leur cœur, à l'un et à l'autre, la résolution et la foi refoulaient l'émotion de tout à l'heure, qui n'était pas encore entièrement apaisée. Olivier soupira longuement et dit enfin d'une voix sourde, « Oui, c'est fini. » Les lèvres de Mabel remuèrent, et il vit une pâleur de mort monter à ses joues. Il l'étreignit fortement. « Écoute, lui dit-il, il faut que tu saches et que tu acceptes. C'est fini, Rome a péri. Maintenant, il s'agit pour nous de construire quelque chose de meilleur. » Elle ne répondit rien, mais toute sanglotante, se jeta dans ses bras.